Chers auditeurs, bonjour. Pour revenir sur la conférence, l'élargissement a-t-il fragilisé l'Europe ? Un des intervenants a accepté de répondre à notre micro. Mario Tello, bonjour. Vous êtes le président de l'Institut d'études européennes de l'Université de Bruxelles, qui est un observatoire qui fait autorité dans les études de politique européenne. Alors, lors de la conférence, vous avez souligné que dans la crise européenne actuelle, on pointe souvent du doigt le fait que l'Europe paye aujourd'hui le prix d'un trop grand élargissement et que cette idée, en fait, est fausse. On dit que c'est la faute des petits nouveaux, comme d'habitude, ce sont eux qui prennent les coups quand on recherche des boucs émissaires. Vous dites qu'il est trop facile de dire une telle chose, qu'on aurait dû, par exemple, qu'on n'aurait pas dû laisser rentrer la Grèce en 1981 ou que c'est la faute des pays de l'Europe de l'Est rentrés en 2004. Pour vous, le problème vient d'ailleurs, c'est ça ?
Oui. Charles de Gaulle avait soulevé la question. Il ne faut pas élargir l'Europe seulement parce que les autres demandent à devenir membres, mais parce que c'est dans l'intérêt de la construction européenne, même si l'idée gaullienne de la construction européenne n'était pas très fédéraliste ou fonctionnaliste, mais le contraire, une idée intergouvernementale, mais quand même il avait posé la question par ses veto. Une fois de Gaulle décédé, on a eu la première vague de l'élargissement, Angleterre, Danemark et Irlande en 1973, et par la suite l'élargissement aux pays méditerranéens, aux pays de l'Est et aux pays de l'EFTA, Suède, Finlande et Autriche en 1995. Et donc, l'Europe s'est faite par des vagues successives d'élargissement et en parallèle un processus d'approfondissement dont les traités sont les piliers. Le traité de Rome, le traité de l'acte unique européen de 1986, le traité de Maastricht 1992, de Amsterdam 1997 et Nice 2000, jusqu'au traité de Lisbonne actuel de 2007. Donc ce parcours parallèle, approfondissement par des traités et de l'intégration et élargissement, ont connu des moments de compromis. Compromis que parfois les eurosceptiques auraient aimé un élargissement très rapide pour diluer et détruire la dynamique de l'intégration. Et d'autre part, les intégrationnistes auraient aimé freiner l'élargissement pour mieux consolider conditions préalables pour pouvoir élargir. Il y a toujours eu des moments de compromis. Malheureusement, la crise actuelle n'est pas l'effet de l'entrée des nouveaux États membres en 2004-2007, mais elle est le résultat d'un processus inachevé d'intégration économique et monétaire lancé par nous-mêmes, les Occidentaux, et en particulier l'axe franco-allemand, parce que c'était le projet de Kohl et de François Mitterrand, par le traité de Maastricht de 1991-92.
Donc, si on suit bien votre raisonnement, il faut clairement faire la différence entre une Europe politique, celle de l'élargissement, même au plus faible économiquement, et justement une Europe économique.
Non, c'est pas forcément. Les deux sont économiques et politiques. Mais je vois l'Europe comme une... D'un côté, c'est très beau que tellement de pays veulent devenir États membres. Ça signifie que la construction européenne est toujours rayonnante et attractive. Ça, c'est une bonne chose. D'autre part, nous devons sauvegarder au niveau économique et politique, ce que les Allemands appellent la Handlungsfähigkeit, c'est la possibilité de décider et donc et d'être efficace. Et souvent, l'émergence du nombre provoque un ralentissement de la décision. Imaginez le Conseil des ministres, s'il doit décider à l'unanimité avec 27 États membres, il est paralysé. Dans le domaine des compétences où le vote à l'unanimité est prévu, politique étrangère, politique de l'éducation, politique fiscale, politique de défense, on ne décide pas beaucoup. Alors que dans le domaine où le vote à la majorité qualifiée a été accepté par tous les États membres dans le traité, là on peut mieux décider. Donc il faut davantage de votes à la majorité qualifiée. Sinon l'élargissement devient une forme de paralysie. Mais dans le cadre de l'union monétaire et économique, le problème n'est pas là. Le problème est que nous n'avons pas d'union économique. Nous avons le nom d'union économique et monétaire, mais pas la substance. Nous avons une excellente union monétaire qui marcherait bien s'il y avait un gouvernement économique à côté. Comme dans chaque pays où on a une monnaie unique, on a une autorité économique, qui est un pouvoir politique. Ils appellent autorité économique, mais c'est un pouvoir politique. Donc, je ne ferai pas la différence entre économie et politique de la façon que vous l'avez présentée.
D'ailleurs, plutôt que dire c'est la faute à l'élargissement, il faudrait donc plutôt dire c'est la faute à l'approfondissement qui n'a pas été mené à terme. Mais dans votre raisonnement, dans la conférence, vous avez quand même dit il y a peut-être un élargissement qui est condamnable, c'est celui de 1973. Pourquoi ?
Condamnable. 40 ans après, on constate que la Grande-Bretagne n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne sa culture européenne. Si on veut voir la moitié remplie du verre, on peut dire que l'Allemagne a quand même, la Grande-Bretagne a quand même avalé le traité de Lisbonne, avec tout ce qui implique en matière d'augmentation du vote à la majorité qualifiée, en 5 ans domaine supplémentaire par rapport au passé. Ils ont accepté quand même des progrès importants dans l'ancien troisième pilier qui est en train de disparaître. Ils ont accepté plein de choses. Mais malgré cela, l'atmosphère britannique reste largement eurosceptique et M. Cameron se proclame eurosceptique au Congrès conservateur. Et même s'il est suffisamment malin pour savoir qu'une demande de référendum pour la sortie serait suicidaire pour la Grande-Bretagne, dans le sens que le 40% des exportations britanniques sont en Europe. Ce n'est pas le niveau franco-allemand de 70%, mais quand même 40%, c'est beaucoup. Et donc, il sait très bien que s'il sort de l'Europe, c'est un suicide pour l'économie britannique. Mais c'est une approche de la construction européenne très instrumentale. Qui reste, donc là, je vois une déception. Mais la déception porte beaucoup plus sur l'élargissement de 1973 par rapport à l'élargissement de 2004-2007 à l'Orient, dans le sens que la Grande-Bretagne a toujours l'attitude instrumentale vis-à-vis de l'Union européenne. Il traverse l'Atlantique pour apprendre, il traverse la Manche pour enseigner. Et donc ça, c'est une approche de l'Europe qui n'est pas très constructive.
Merci beaucoup, Mario Tello.